Parler aux plus petits, justement, de l'écologie, les sensibiliser à la protection de l'environnement, c'est le sujet auquel s'intéresse l'auteur Marie Desplechin, qui, dans son dernier livre « Ne change jamais », propose un manifeste à l'usage des citoyens en herbe. Un ouvrage dans lequel elle s'adresse directement aux plus jeunes en pariant sur leur cerveau d'enfant et leur capacité d'adaptation pour leur écrire une déclaration de confiance. Marie Desplechin est mon invitée dans un instant. Vous allez pouvoir dialoguer avec elle pour nous dire comment, de votre côté, vous pensez cette question de l'environnement avec vos enfants ou vos élèves. 01 45 24 7000 franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous passez au vert dans quelques minutes.
Et je suis justement allée voir des tout-petits qu'on sensibilise déjà à l'écologie des élèves de maternelle.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Ludovic, un éleveur de l'Aveyron qui a créé une structure de méthanisation. Le feuilleton de la semaine avec le troisième reportage de Célia Quiret sur les communes zéro carbone. Nous serons aujourd'hui à Plessala dans les Côtes-d'Armor. Il s'agit du premier territoire à énergie positive en France. Et puis enfin, notre invitée découverte est la scientifique Julie Trottier, spécialiste de l'eau. Elle nous parlera de l'assèchement de la mer morte. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Ronan Mahé et Louis Audebert.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez « Ne change jamais » à l'École des loisirs. C'est donc un manifeste à l'usage des citoyens en herbe. Un ouvrage qui nous donne donc l'occasion de discuter avec vous et avec les auditeurs de la façon dont on peut parler d'écologie avec les plus jeunes. Le premier texte d'ailleurs qu'on peut lire dans votre livre est celui de Greta Thunberg, la jeune militante suédoise qui réclame aux adultes de dire justement toute la vérité. C'est pour vous justement la meilleure façon de leur parler d'environnement ?
De parler de Greta ?
Et de parler de la vérité surtout, de dire la vérité.
Mais je pense qu'on leur doit la vérité, on la leur doit d'autant plus qu'elle va leur arriver, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne pourra pas les en protéger. Donc en fait, il faut y aller avec eux, il faut pouvoir les accompagner, et faut les préparer, mais toute cette histoire change notre rapport aux enfants, à la génération qui nous suit en fait. Parce qu'on est moins en situation d'arrogance, puisque en fait tout ça, on ne va pas dire c'est de notre faute, ce serait absurde, mais on n'y a rien fait. Donc en fait, même par rapport à eux, c'est l'idée d'aller ensemble. Et en fait, ce qui se passe avec Greta Thunberg, c'est aller ensemble. Et ce qui est marrant avec elle, c'est qu'elle y va avec cette caractéristique adolescente qui, moi, me fascine et que j'adore, qui est sa capacité de colère. Et donc cette colère qu'on lui reproche, elle est propre. Elle est propre aussi, elle est propre à elle, et puis elle est propre à cet âge-là. Et donc, c'est très bien de commencer avec elle. C'est l'esprit du livre.
Vous aimez vous faire engueuler par Greta Thunberg et Marie Desplechin ?
Oui, bien sûr. Ouais. Vas-y, Greta, engueule-moi. Non, mais c'est vrai, il y a un tas de trucs, je le savais. En 70, on avait déjà René Dumont. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant 20 ans quand tout s'est aggravé ? Ouais, je veux bien, mais la question n'est pas de s'arrêter à se faire engueuler, en fait. Bon, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est toujours la seule question importante, c'est comment on avance ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais. Vous avez beaucoup réfléchi à la façon de vous adresser justement aux plus jeunes sur ces questions-là d'environnement et d'écologie, avant de trouver la bonne formule finalement ?
J'ai dû y réfléchir quand on m'a demandé au moment de la COP21, la Maison des écrivains et de la littérature m'avait demandé un texte, parce que 30 écrivains faisaient un texte sur le changement climatique. Alors moi, de ma position, j'ai dit, eh bien, avec plaisir, mais ce serait un texte pour les enfants. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, bon, comment on en parle et qu'est-ce qu'on leur dit ? Et donc, ça a été on a tous, en matière d'environnement, une grande étape initiatique, donc ça a été la mienne. Donc, j'ai lu Naomi Klein, j'ai lu un tas de gens, et j'ai vécu 3 semaines de cauchemar. Je me réveillais la nuit en pleurant à 3h du matin, j'avais peur, j'étais en colère, je ne savais pas quoi faire. Et après, il y a une résilience à ça. Et je me suis dit, comment je peux partager cette chose tellement, à la fois angoissante et à la fois qui vous pousse à l'action, parce que l'action, c'est le seul moyen d'entrer dans la résilience, avec des enfants. Et donc là, effectivement, c'était un gros travail, parce qu'il fallait... D'abord, ça sert à rien d'être trop anxiogène, puisque la peur, elle vous paralyse. Et qu'est-ce qu'on propose à des petits ? Donc, c'était la première étape. Donc, il y a été une initiation pour moi, en même temps, le fait de m'adresser à eux. C'est toujours bien de voir ce qu'on peut mixer pour les gosses, parce que c'est nous qui en profitons. Et après, c'est une idée qui m'est venue pour ce livre-là. Je me disais, on est toujours dans l'injonction avec les mômes. Fais ceci, fais cela, tu ne dois pas, ni, ni, ni. Ouais. Et en fait, même en pensant à Greta, elle me disait, mais non, ils ont un tas de défauts qui sont super bien et super utiles. En fait, faut y aller ensemble avec ce qu'ils sont.
Et voilà. Mais là, c'est votre jeune narratrice qui est dans l'injonction, finalement. C'est elle qui nous engueule. Parce oui, mais le livre est divisé en deux, finalement.
Il y a une adolescente qui, disons, proteste sur le modèle des adolescents, de l'adolescent lambda. Donc, j'espère que c'est drôle. En fait, moi, ça m'a beaucoup amusé à faire. Et il y a une deuxième partie qui analyse ce qu'elle dit et qui lui dit « Tu as raison, donc ne change jamais ». par exemple, vous avez ce truc, alors prenons le truc le plus caricatural, qui est, il y a un moment, ils veulent plus trop se laver, en fait, avant de bloquer votre salle de bain pendant des heures. Et donc, elle râle là-dessus, et à la fin, on peut lui dire, eh bien, tu peux effectivement te laver au lavabo, comme le faisaient tes grands-mères avant toi, parce que faut faire attention à l'eau, parce que c'est précieux, l'eau douce, on a de moins en moins, on la salit, et voilà, de faire une partie documentaire, si vous voulez.
Avec des chiffres aussi, hein, pour vraiment...
Voilà, en essayant d'avoir les chiffres les plus justes possibles, vous savez mieux que moi, c'est difficile en matière d'environnement d'avoir les derniers, les bons et tout. Et après, un ou deux petites blagues ne changent jamais, et puis une petite anecdote qui termine.
Mais à qui s'adresse finalement ce livre ?
Aux grands-enfants et aux adolescents.
Mais oui, c'est ça, quand même.
Je pense qu'il s'adresse à vous aussi.
Ouais.
Je pense qu'on a toujours besoin d'une piqûre de rappel, et ce que j'aimerais bien, c'est que on puisse rire aussi. Parce qu'en fait, on peut difficilement faire les choses si on ne sourit pas, en fait. Si on n'est que dans la douleur et la panique, on ne fera rien.
C'est l'écologie joyeuse d'Edouard Philippe, finalement, que vous préconisez ?
Ah non, vous vous moquez de moi, Mathieu Vidard. Je sais pas répondre, vous me prenez tellement par surprise. Non, je pourrais vous répondre, l'humour et la politesse du désespoir, voilà, un cliché pour un cliché.
Ouais.
Mais je crois qu'il faut aborder, je vais pas dire avec enthousiasme ou avec joie, mais pourquoi pas avec cette espèce de caution de allons-y, quoi, vous êtes avec des gens qui ont moins de 15 ans, ça va se passer devant eux, vous pouvez pas leur dire allons-y à la tête rasée, couverte de cendre, en robe de bure, vers la tombe, non, ça c'est moche.
Ouais.
On va dire, écoutez, il va se passer des trucs, voilà.
Ouais.
Voilà.
Alors, lisez-nous, s'il vous plaît, quand même, Marie de Plechin, parce que vous êtes d'accord pour le faire, un court extrait du texte de la COP21 que vous avez écrit, justement, à destination des enfants, pour voir un petit peu comment vous pouvez vous adresser à eux.
Alors là, il était un peu plus dur, le texte.
Ah oui, hein?
Oui, oui. Et un certain temps a passé depuis ce texte-là. Donc, messieurs, mesdames, il faut que vous sachiez que les 10 ans qui viennent ont été appelés la décennie zéro. Pourquoi la décennie zéro ? Parce que si dans 10 ans, les hommes n'ont pas réussi à stopper l'augmentation de la température, c'est fichu. Fichu pour la Terre que nous connaissons, la petite planète bleue, pour ses espèces végétales et animales, pour le règne des mammifères et bien sûr, parmi eux, pour les humains. 10 ans, ça vous paraît beaucoup ? C'est beaucoup pour un jeune humain. Pour un vieux, ce n'est rien du tout, un clin d'œil. Par ailleurs, je vous signale que si les mêmes hommes n'arrivent pas à limiter la hausse de la température à 2 degrés dans les 2 ans qui viennent, il y a de fortes chances que les choses leur échappent. Qu'est-ce que ça veut dire que les choses leur échappent ? Ça veut dire « bienvenue les catastrophes ». Genre, les glaces disparaissent, les océans débordent, les tempêtes sont de plus en plus violentes, les pays chauds deviennent des déserts brûlés. Les pays plus froids sont noyés sous la pluie, la mer devient acide, les espèces marines disparaissent, les forêts sèchent sur pied, les races animales s'éteignent. Et les hommes ? D'abord, ils essaient de trouver des refuges pour échapper à la famine, aux inondations et aux cataclysmes, un peu comme aujourd'hui, mais en pire. Ensuite, c'est la grande panique, les émeutes, la violence et la guerre. Et à la fin, de toute façon, quand les océans ont monté de 6 mètres, l'affaire est réglée, bye bye les hommes.
Je ne vais pas vous laisser mes enfants en garde, rien des plus chers, parce qu'ils vont finir, mais totalement déprimés.
Ce texte, il était plus dur. Et il y a une partie, je pense, qui est juste dedans, mais je sortais de la lecture de tout ce que je vous disais, de mon étape de Naomi Klein, et,
ouais.
et j'étais très frappée. Après, il y a des passages plus sympas, en disant, non seulement on peut reconstruire, mais dans l'adolescence, il y a vraiment quelque chose, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, hein, il y a une force vitale, et ça a toujours été comme ça, ouais, historiquement. Hein.
Donc vous ne prendriez plus la plume tout à fait de la même manière, d'ailleurs on le voit aussi dans ce livre, déjà le ton a quand même changé.
Exactement.
Et là c'est, comme vous le dites d'ailleurs, une déclaration de confiance envers les enfants, d'abord parce qu'ils ont quelque chose de formidable, c'est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que leur cerveau est très changeant,
ils ont
cette capacité
nous, on le voit quand
de rapidité
on les fréquente,
ouais.
ils sont
d'adaptation.
Très très vite, et ils sont tout de suite actifs, c'est-à-dire il y a toujours un espèce de potentiel de création, vous dites un truc et en fait il le transforme par le jeu, par l'action. Moi j'ai vu plein d'exemples dans les classes. C'est extrêmement amusant et joyeux de travailler avec eux. C'est tout de suite dans la réalisation.
Eh bien les classes, envoyez-les tout de suite. Vous restez avec nous évidemment, Marie de Plechin. Vous êtes notre invitée autour de cet ouvrage Ne change jamais. C'est à l'école des loisirs. Et les questions, les témoignages des auditeurs de La Terre au Carré au 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au Carré.
Car Camille, vous êtes allée justement dans une école maternelle qui sensibilise les plus petits, donc à l'écologie.
Et oui, il s'avère que c'est l'école à laquelle vous dédicacez votre livre, Marie Desplechin. C'est un total hasard, hein, je l'ai appris ce matin. L'école Gustave Roynet, dans le 18e arrondissement de Paris, qui a transformé son toit en immense jardin. Il y a un figuier, des fraises, des tomates, des concombres, des roses. Et tout au bout, un très grand bac sur lequel sont penchés de tout petits enfants. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Je suis en train de taper la terre parce que ça doit mettre bien.
On est en train de faire du terreau
et mélanger avec du compost.
Alors tous ces jardiniers ont leur pelle, leur râteau, aussi mini queue, ou plongent directement leurs mains. Toi, ça t'embête pas de mettre les mains dans la terre ?
Non, mais la terre c'est pas sale.
Non, parce que c'est tout mou.
Tiens, regarde, il y a un petit cloporte là-bas.
Attends, je peux le faire.
L'écrase pas, hein.
Il y a un bébé cloporte. C'est cloporte. C'est pas un escargot, c'est un asticot.
Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est un ver de terre.
Et oui, ils sont à fond sur les petites bestioles, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Avant, j'ai tué les insectes parce que j'avais peur, mais après j'ai compris qu'il fallait pas les tuer parce que si tu embêtes pas les insectes, bah ils t'embêtent pas. Ils ont besoin de vivre, il faut prendre soin d'eux parce qu'ils sont plus petits que nous.
Voilà, un discours écolo et plein de bon sens dès la maternelle.
Allez, tu verses ?
Bravo.
Et c'est Michèle, enseignante de l'école à la retraite, qui aide à les sensibiliser avec son mari Bruno.
Ce qui leur manque le plus, c'est la notion de temps, c'est ce qu'on travaille en maternelle, c'est-à-dire qu'on est en train de leur expliquer que ce qu'on fait là, on pourra le planter qu'au printemps. Pour eux, c'est encore très, très abstrait.
Mais ils comprennent et le côté climat, écologie, planète ?
Oui.
Mais c'est sur eux qu'il faut compter. Hein. Nous, c'est fini, nous, c'est passé. On vous laisse une drôle de planète, mais bon, c'est à eux de jouer maintenant.
Alors, ces enfants ont-ils vraiment une conscience écologique, même s'ils ne connaissent pas le mot écologie ? Écoutez plutôt, attention, c'est une séquence mignon.
Il faut protéger la Terre parce qu'on adore notre planète.
Sinon, on ne vit pas si la planète elle est morte.
Moi, je n'ai pas vu la planète.
La planète, c'est là où on vit.
Bah oui, c'est ça la planète.
Si on ne protège pas la planète... Bah, la planète, elle va pas être en forme. Bah, en fait, la planète, elle va être détruite. Et si on jette des bouteilles par terre, bah, ça pollue la terre et c'est pas bien.
Ah, je vous avais prévenu. Alors, c'est en leur faisant découvrir des choses qu'ils aiment, hein, on en parlait, qu'ils sont réceptifs. Le positif, élément indispensable pour la directrice de l'école, Élise Rébeau.
Ça va pas être des notions ni de collapsologie, ni voilà de choses dramatiques. On va rester sur des choses très simples. Un vrai plaisir. C'est ça qui fait que l'enfant, après, va se souvenir de tout ça, des étapes, et j'espère être un éco-citoyen.
Un peu comme elle qui a sur son bureau, par-dessus la paperasse, le potager facile, hein, c'est un livre, ou son vélo appuyé contre le mur. Alors oui, on peut y voir le cliché ultime des bobos parisiens. Sachez quand même que l'école est classée REP+, hein, les établissements les plus en difficulté, avec certains élèves dont les parents pensent à se nourrir tout court avant de choisir quinoa ou boulgour. C'est donc aussi, explique cette fois la maîtresse, une affaire de transmission, mais dans le sens enfant-adulte.
Ce qu'on essaye de faire justement, c'est de sensibiliser les petits pour qu'eux-mêmes sensibilisent leurs parents.
On va aller voir s'il n'y aurait pas des petites fraises ou des petites tomates cerises.
On a besoin de planter des légumes, ça fait des vitamines.
Ils ont bien retenu. Allez, le dernier échange que je voulais vous faire entendre, écoutez. Est-ce que tu crois qu'elle va bien, la planète, aujourd'hui ?
Non, parce qu'il pleut aujourd'hui.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va lui laisser quand même un peu le temps pour comprendre. Ces Greta en herbe sont déjà bien avancées à leur âge, bien plus, en tout cas, que certains adultes. Marie Desplechin, est-ce que c'est aussi à l'école de faire ce travail de sensibilisation ?
École Gustave Roynet, donc, à Paris, hein.
Bah oui, bien sûr, si on peut le faire. Enfin, on est une communauté d'adultes. C'est-à-dire, l'école, c'est pas un monde différent. On participe vraiment au même monde. Donc, je pense qu'on doit le faire tous ensemble. Et ce qu'il y a de génial avec l'écologie, c'est que c'est vraiment transdisciplinaire. C'est-à-dire, s'il y a un endroit par lequel tout passe, que ce soit l'expression, que ce soit le calcul, la physique, l'histoire, tout revient là. Donc, en fait, vous pouvez, et il y a vraiment cette notion d'éducation aussi, l'éducation au sens de bien-être, bien appartenir à la société dans laquelle on est et au monde dans lequel on est. Donc, oui, évidemment. Mais pas l'école indépendamment de la société, l'école avec toute la société.
Vous vous y rendez souvent dans cette école ? Vous avez fait tout
un travail ? C'est-à-dire, il y a une classe et il y a des enfants pour qui j'ai énormément de sympathie. Et cette terrasse, j'ai fait le goûter zéro déchet.
Dessus ?
Oui, avec la classe de Clémence, on l'a fait l'année dernière et c'était merveilleux.
Mais c'était avec des primaires ou avec des maternelles ? Parce que là, c'est des maternelles.
Oui, j'ai entendu que c'était des maternelles. Mais en vous écoutant, je me disais, je pensais à toutes ces photos de petits gosses qu'on voit faire des briques ou travailler à partir de 4-5 ans ou faire des tapis. Ces enfants qu'on peut exploiter pour le travail ou ramasser des cacahuètes ou des amandes pour des firmes alimentaires, c'est des enfants qui peuvent penser, qui sont actifs. Vous voyez, il y a cette dimension vraiment citoyenne dans l'enfant. Il est vraiment actif de ça. Et c'est super joli parce que je suis absolument persuadée que ces enfants-là interviendront vraiment et d'une manière
belle sur le monde qui va arriver.
On en discute avec les auditeurs, Marie Desplechin, puisque avec vous êtes notre invitée. Comment vous, de votre côté, est-ce que vous parlez justement environnement, écologie, avec vos enfants ou avec vos ados? Parce que c'est aussi une question qui est tout à fait intéressante en ce moment. Ne change jamais, c'est à l'école des loisirs. Et vous nous appelez au standard de France Inter, 01 45 24 7000.
Bon baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le. C'est les Sao, pas gâteau, rarement KO. Message personnel à ceux qui visent le titre, le gilet, la ceinture. M6 Queen sur le ring. J'attrape 7-7, crash sec, mec. Live tout droit de Fort Greene à Brooklyn. On vient convertir les sceptiques, les éclairer, chauffer leur climat. Block party, block party, quand les platines sont de sortie. Tout est prêt pour découper. À tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord. Rap street, 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 dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite. Je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont prises viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas. Même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je bosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains savent tous qu'on est des Rottweiler. 100% des mots sont à nous. C'est quoi ce rap avec des Ghostwriters? J'en pousse seul, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre comme Géronimo, Smike les humilie, tout ce faux bling à Nick et Maritine, comme Rakim les aligner les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation, leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. À mes yeux ça reste trop vague. Alors c'est quoi que tu fais, rap ou violence, pas beau escroc blague. À l'opposé de ta tactique, cruelle extérieur dedans, complètement cuit ainsi fait le petit con fou. La merde puis s'enfuit, ça s'étonne un an après que la guerrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. J'suis déjà loin devant mes ramen en Montessando.
Nom de code shuriken avec un gars comme Kunta Kinte. J'viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip-hop don't stop nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary ça va piquer. Compliqué, ça va devenir ma team bar appliquée. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriété. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet? Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite abdiquer. Des criquets, c'est ce qui restera quand je cesserai de kicker. Eux qui pensaient que pour rapper il suffisait de cliquer. Tu veux tester le crew, fais la queue, prends un ticket. Plein de rimes dans l'escarcelle, ce pari là est risqué. Mais puisque tu sembles insister, je vais pas résister. À la fin de l'envoi, ton petit boule va se faire plastiquer. On l'appelle Mike, sa fonction c'est d'éradiquer. On m'appelle Chou, j'ai la même fonction que Mike. C'est au cœur de la bataille que je fais taire les critiques. Les haters et les sceptiques, les gueux assis sur un piquet.
Homo Tessando, c'était I Am sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Comment parlez-vous d'écologie avec ces futurs citoyens, ces citoyens en herbe en tous les cas? Marie Desplechin écrit ce livre « Ne change jamais » à l'école des loisirs. Elle est l'invitée de la Terre au carré pour dialoguer également avec vous. Et Olivier, vous êtes en ligne au standard d'Inter. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour Marie.
Bonjour Marie Desplechin. On vous écoute Olivier.
Ma question est... Et ma question partait d'un constat. C'est assez facile de faire prendre conscience de l'urgence écologique avec les enfants et de leur faire avoir des pratiques un petit peu plus vertueuses. Par contre, les mêmes enfants, une fois parvenus à l'adolescence et à un âge un peu plus avancé, s'en contrefichent totalement et reprennent les mauvaises habitudes. Et voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire avec les ados, en fait, les ados et les post-ados et les jeunes adultes?
Alors Olivier, il y a pas mal de messages d'auditeurs dans le même sens que vous. D'ailleurs, Marjorie nous dit malheureusement, il change. Mon fils adorait les petites bestioles et aimait récolter les graines et faire pousser les plantes. Aujourd'hui, à 19 ans, il est hyper connecté, prend des douches d'une demi-heure, mange du fast-food et quand j'essaie de réveiller sa fibre écolo, il me dit que ce qu'il pourrait faire à son niveau ne sert à rien. Qu'est-ce que vous répondez, Olivier, Marie Desplechin?
Il y a un tas de choses à répondre, c'est-à-dire que ça se passe sur différents plans. Après, quand c'est dans votre famille, c'est-à-dire vous allez essayer d'inculquer des choses à vos enfants qui vont vous les renvoyer dans la tête parce que ce sont vos enfants. Donc il faut replacer ça, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une conscience écologique ailleurs, mais dont vous n'aurez pas conscience tout de suite. Après, quels ados ? Moi, j'en vois autour de moi qui continuent, c'est-à-dire qui sont vraiment droits dans leurs bottes et pas forcément sur le chemin de leur enfance, mais sur leur propre chemin, c'est-à-dire qui sont quand même hyper attentifs à pas jeter n'importe quoi. C'est dans la manière de discuter avec eux. Après, moi, je me dis, on n'est pas forcément dans l'injonction, on peut être dans l'information aussi. C'est-à-dire d'échanger avec eux, par exemple, sur la pollution numérique, qu'est-ce qui est possible de faire, ce qui est intéressant, c'est-à-dire de parler outils, en fait, de parler de faire ensemble. Ce qui est marrant dans ce que vous me dites, c'est-à-dire, ça me fait rigoler, c'est que, c'est-à-dire, je vois l'intérieur de la vie d'une famille, avec l'opposition parents-enfants, vous n'y couperez pas, et là, il se trouve que ça tombe sur le terrain de l'écologie, mais je ne sais pas s'il y a des conclusions à en tirer sur l'ensemble de son comportement.
Et puis il y en a qui sont pas pour, mais il y en a aussi des millions qui défilent dans les rues tous les vendredis. On l'a encore vu.
Voilà, c'est ça. C'est pas le cas de tous.
Oui, mais il faut pas se tromper parce que tout le monde ne s'intéresse pas loin de là à l'écologie, oui, et les adolescents non plus. D'ailleurs, Camille, non. Vous nous l'aviez montré devant un lycée où vous étiez rendue.
Oui, il y en a qui ne voulaient pas justement aller à marche sur le climat pour différentes raisons, mais il y en a qui se sentent très loin de la question écologique.
Mais c'est à l'image de la société, c'est-à-dire le boulet est énorme. Voilà, et les adolescentes ne sont pas meilleures potentiellement que le reste de cette société. Ou donc c'est d'autant plus important d'avoir des gens exemplaires, des gens proactifs, parce que c'est sur l'exemple, sur l'élan, sur la création de pensée que ça va se faire.
Alors justement, on a Véro sur l'appli France Inter qui vous demande. J'aimerais savoir ce que Marie Desplechin a changé dans son mode de vie après cette prise de conscience écologique et cette aventure littéraire. Donnez-nous l'exemple. Ne nous désespérez pas.
Moi, je suis pas Madame Parfaite, donc je vais pas donner l'exemple. En fait, j'ai envie de suivre l'exemple des autres. Il y a un tas de blogs ou de sources d'informations auxquelles vous pouvez suivre, qui vous donneront des tas de conseils. Alors, dans ma pauvre petite vie, mais je ne vous demande pas de faire la même chose. Donc moi, j'ai dit, alors hop, c'est fini, plus d'avions. Tant pis, j'irai pas voir des pays qui n'ont absolument pas besoin que je
traîne. C'est vrai, c'est ce que vous faites ?
Ah bah ouais, tant pis. De toute façon, il y a pas, enfin, j'en ai pas, il y a sûrement des gens pour qui c'est absolument nécessaire, mais moi, encore une fois...
C'était la phrase de Jack Miles, hein, pour l'amour de la planète, arrêtez de voyager.
Oui, très bien.
C'est une phrase qui interpelle, qui fait réfléchir, parce qu'on aime tous découvrir le monde aussi.
Oui, mais je vous jure qu'en fait, toutes les expériences de renoncement sont des super bonnes expériences, parce que par exemple, je me dis, si un jour je veux aller moi aussi trouver que le Japon c'est très différent d'ici, eh ben je vais prendre 3 mois. C'est-à-dire que ça va changer votre rapport au temps. Si vous voulez aller à Istanbul, vous en avez pour pas très longtemps en avion, vous allez mettre une semaine en train.
Mais prenez pas un cargo ou un porte-container, c'est ultra polluant. Hein.
Oui, ça c'est interdit, voilà. Le cargo. Mais par exemple, il y a ce petit truc-là, quoi. Donc il y a favoriser le vrac, il y a acheter bio. Je sais qu'il y a la question des moyens, mais enfin, ouais, j'ai quasiment renoncé à la viande, en tout cas définitivement à la viande rouge. Il y a un tas de trucs. Toujours se balader avec 14 sacs, petits, moyens, grands, pour jamais de sacs plastiques, c'est hyper péché. Enfin, un tas de trucs comme ça. Essayer d'acheter. Donc ce sont des choses minuscules. Mais il ne faut pas dire que les choses minuscules ne servent à rien. Ça, c'est vraiment un argument. C'est un argument pour que vous ne fassiez rien. Méfiez-vous de ça parce que c'est un poison. Évidemment que les petites choses, ça sert. Évidemment que l'exemple, ça sert. Évidemment.
Vous dites les sacs plastiques, c'est hyper péché.
Ah ouais, moi je trouve, monsieur, qu'il faut
un
moment...
Il y a un truc biblique là, dans vos propos, Marie de Plechin.
Et vous ne pensez pas que ce qui nous attend, c'est un peu biblique, Mathieu Vidard ?
Oui, mais on n'est pas dans le domaine de la croyance ou de la religion, là.
Ah non, on est absolument dans le domaine. Non, mais on a le droit de faire des blagues.
Joël est en ligne avec nous. Bonjour, Joël.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Je vous salue tous. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Je voulais intervenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de mentir, la notion de mentir aux enfants. Je pense que vous avez parfaitement raison. Il va y avoir effectivement des choses qui vont être très difficiles et je pense qu'il faut bien les préparer parce que mieux ils seront préparés et plus ils seront outillés pour trouver des solutions. Donc il est urgent de ne pas leur mentir, mais pas seulement pour le climat, mais tout simplement, je crois qu'il faut inculquer dans les écoles le respect du vivant de manière générale, dont nous faisons partie. C'est-à-dire, essayer de vivre autrement, comme vous veniez de dire. Moi, c'est mon ado qui m'a fait changer à la maison. Elle est triathlète, elle ne mange pas de viande, On ne mange plus de viande. On est très heureux de ne plus manger de viande pour 2 raisons. Et je pense qu'il faut arrêter de mentir aux enfants là-dessus aussi. pour la première raison, c'est pour des raisons écologiques, parce qu'on est dans un problème d'occupation des sols, voilà, dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire des élevages, qu'ils soient industriels ou pas. On sera obligé de s'alimenter autrement. Et puis la deuxième raison, c'est que on n'en entend pas beaucoup parler, mais la souffrance des animaux, elle est énorme. Et nous aussi, nous sommes des animaux, voilà. Et donc, on est capable de comprendre que ce qui nous fait souffrir à nous, ça peut aussi les faire souffrir à eux. Et la disparition des espèces dans le monde, voilà, il y a eu un rapport là-dessus il n'y a pas très longtemps.
Il y en a beaucoup, malheureusement, dans,
pour les enfants,
pour plein d'espèces, voilà. Hein, effectivement. Marie Desplechin, pour répondre à Joël.
Je pense que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est l'idée de dire la vérité. Parce qu'en fait, la vérité, on la prend en même temps qu'eux. Et ça, c'est un phénomène qui est assez nouveau.
Oui.
C'est-à-dire que cette vérité...
Après eux, hein.
Voilà, après, il y a toutes ces informations qui vous arrivent. D'abord, c'est énorme. Faut que vous triez dedans. Faut que vous les validiez. En fait, ce qu'on apprend avec eux et ce qu'on peut leur apprendre, c'est à traiter cette information. C'est-à-dire, comment on cherche la vérité? Il faut pas qu'ils retombent comme d'autres dans des systèmes de croyances. Ça, c'est, et là, l'éducation à la science et l'éducation à la démocratie aussi, elle me semble fondamentale.
On a d'ailleurs une toute petite remarque d'Annick à ce sujet qui dit que c'est aussi un sens critique qu'il faudrait leur apprendre pour être armé face à la société de consommation et aux médias.
Lucie est en ligne également au Standard de France Inter et de la Terre au Carré. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Marie Desplechin vous écoute.
Oui, bonjour. Alors moi je voulais témoigner en tant que membre du collectif des enseignants pour la planète, qui est un collectif qui s'est constitué en début d'année l'année dernière dans l'objectif de à la fois utiliser notre liberté pédagogique pour enseigner de manière réaliste les crises écologiques, parce qu'elles sont l'éducation nationale, les programmes de l'éducation nationale sont encore très discrets sur ces sujets. Mmh. Et ça, on pense que c'est vraiment un énorme manque. Et aussi de se regrouper en tant qu'enseignant pour justement être force de revendication pour dire qu'on veut que les contenus de programme de l'éducation nationale soient beaucoup plus réalistes et objectifs sur ces sujets.
Ça, c'est un des grands enjeux pour l'avenir. D'ailleurs, ça va arriver aussi petit à petit avec plus d'heures d'enseignement autour de l'écologie.
Alors, il y a le plus d'heures d'enseignement, mais alors là, si vous voulez, là, j'en suis une qui est en cinquième en ce moment, je vais vous dire plus d'heures d'enseignement pour leur mettre plus de trucs dont ils vont absolument se souvenir de rien. Ce n'est peut-être pas la peine. Je suis hyper d'accord avec vous, je vous soutiens, je vous trouve extrêmement sympathique. Il y a les connaissances et il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure, la formation de l'esprit critique, l'apprendre à apprendre, puisqu'il va falloir justement s'adapter, et aussi la formation à la démocratie, parce que ce qui va se passer face à des phénomènes qui sont durs à assimiler, les premières réactions qu'on a, c'est de la peur et c'est de la colère, et on la dirige contre quelqu'un. Et je trouve qu'on le voit beaucoup en ce moment, la création de Medmi et tout. Or, il faut sortir de ça, parce que sinon ça va mal se passer. Donc il faut, comment on apprivoise la rage, comment on se donne un but, comment on y arrive pacifiquement, comment on ne méprise pas les autres, comment on n'écrase pas. Pas parce que c'est des bons sentiments, parce que c'est vital. Parce que si on s'en sort, on s'en sortira comme ça. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent se jouer à l'intérieur des structures scolaires. Enfin, moi, j'ai une énorme défiance d'un côté, mais une énorme confiance dans le potentiel de ce que peuvent faire les enseignants et l'école. Mmh. Voilà.
Marie Desplechin, les jeunes activistes comme Greta Thunberg, est-ce qu'ils méritent le prix Nobel de la paix, comme le demande l'ancienne lauréate 2011 de ce prix, Lema Bowie, à votre avis?
Ouais, c'est gentil. Moi, je trouve que les médailles, c'est pas forcément ça qui, ce serait mieux qu'on l'écoute après donner. Enfin, la médaille, oui, c'est bien si on l'écoute. La médaille en soi.
C'est un symbole, hein, plus qu'une médaille, quand même, le prix Nobel.
Merci beaucoup. Mais bon. Marie Desplechin, ne change jamais. Merci à vous. Donc, ce manifeste à l'usage des citoyens en herbe, c'est à l'école des loisirs et ce livre vient de paraître. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans la Terre au Carré. Juste après les infos, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Ludovic. C'est un éleveur de l'Aveyron qui a créé une structure de méthanisation. Il va tout nous expliquer dans un instant et juste après les informations.
La Terre au Carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, un nouveau reportage de Célia Quilleray sur les communes zéro carbone. Nous serons aujourd'hui à Plessala dans les Côtes d'Armor, le premier territoire à énergie positive en France. Et puis notre invitée découverte est Julie Trottier, directrice de recherche au CNRS. Elle est spécialiste de l'eau en Israël. Elle va nous parler de la mer morte en train de disparaître en raison de la sécheresse et des activités humaines. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne, Camille, avec Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes le président de l'association Méthanobra qui se trouve à Sainte-Geneviève-sur-Argence en Aveyron. Alors c'est quoi exactement Méthanobra?
Donc Méthanobra, c'est une association de 29 exploitations qui ont décidé de développer une unité de méthanisation à base de 100% d'effluents agricoles, c'est-à-dire fumier et lisier.
Quand est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce projet? Ça a démarré comment?
Début 2011.
Mmh. Et ça a démarré comment? Alors, ça a été une idée collective?
Voilà, ça a été une idée collective via une coopérative d'utilisation de matériel agricole qu'on appelle une CUMA, à partir de laquelle on a engagé des enquêtes auprès des agriculteurs à l'échelle cantonale à l'époque.
Mmh.
Et donc on a décidé de développer cette unité afin de réduire les temps de travail autour de la gestion des effluents agricoles et pour en même temps profiter pour développer une production d'énergie renouvelable via la méthanisation.
Alors justement Ludovic, on a besoin d'un petit cours de méthanisation là pour en savoir plus.
Une petite vulgarisation
du terme. C'est quoi le principe exactement? Parce qu'on en entend parler souvent et on aimerait bien savoir ce que c'est dans les détails.
Donc le principe de méthanisation, c'est un principe qui est vieux comme la Terre, si on peut dire. En fait, c'est une fermentation anaérobie, sans oxygène, sur l'ensemble de la matière organique. Bon, nous, on traite nos effluents d'élevage, les fumiers et les lisiers, mais on pourrait y ajouter des produits d'origine végétale et même sur d'autres unités, des déchets de l'industrie agroalimentaire, etc. quoi.
Qu'est-ce que c'est l'intérêt de cette unité de méthanisation? Ça sert à quoi?
Donc aujourd'hui, on produit du gaz qui fait tourner un moteur et une génératrice qui produit de l'électricité. Il existe aussi, là ça s'appelle le principe de cogénération, et il existe également le principe d'injection directe où le méthane qui est produit via le digesteur est directement capté et est, après épuration, injecté dans le réseau gaz.
C'est quoi le digesteur, Ludovic, exactement?
Donc le digesteur, c'est en fait une fosse dans laquelle se réalise la fermentation anaérobie.
D'accord, donc c'est la cuve, c'est ça où vous mettez les déjections animales, comme le lisier ou le fumier, comme vous l'expliquiez, et qui sert donc à produire tout ça. C'était quoi au départ d'ailleurs l'idée pour vous? C'était d'essayer de faire des économies au maximum avec les autres exploitations agricoles, ou vraiment d'avoir un sens de l'écologie, de l'environnement, pour essayer d'apporter aussi votre pierre à l'édifice là?
Alors les intérêts étaient communs et multiples, c'est-à-dire que les 29 exploitations adhérentes au projet sont concernées par l'avenir environnemental de notre territoire.
Mmh.
Et en même temps, on réfléchissait à une problématique qui se pose sur nos exploitations, qui est le manque de main-d'œuvre aujourd'hui. Les exploitations se sont développées et dans nos régions notamment, une grosse partie de la main-d'œuvre sur le plan annuel est dédiée à toute cette gestion autour des effluents.
Mmh.
Et aujourd'hui, les exploitations dédient ce travail à des salariés agricoles, de toute façon, qui sont embauchés au niveau de la CUMA de Sainte-Geneviève, qui assurent l'approvisionnement de l'unité, donc via le transport des effluents, et derrière, un rendu racine sur les parcelles des agriculteurs.
Donc ça, c'était votre solution à vous, finalement, pour régler ce problème. Et d'un point de vue environnemental, alors?
Et d'un point de vue environnemental, si vous voulez, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les agriculteurs, on est sur des zones géographiques avec un climat particulier, relativement difficile, notamment l'hiver. Et les épandages souvent se faisaient non pas quand les gens le voulaient, mais plutôt quand ils le pouvaient, en fonction des conditions climatiques. Et aujourd'hui, par notre système, on a la possibilité plutôt d'épandre quand on veut plutôt que quand on peut, quoi.
Mmh.
Et ça a un intérêt, c'est tout simplement que aujourd'hui, en termes d'environnement, on est moins soumis à des problématiques de lessivage, notamment au niveau des lisiers et des fumiers, qu'auparavant, quoi.
Alors, donc ça sert à produire quoi parce qu'il y a différents aspects, hein, justement, autour de cette matière première et de ces micro-organismes. Ça sert à faire quoi, alors?
Donc, tout simplement, aujourd'hui, on transforme le CO2 en CH4. Cette production, elle se fait naturellement.
Mmh.
Et d'ailleurs, le monde agricole est relativement... Parfois, si j'ose dire, un peu injustement, montrer du doigt par rapport à cette production de méthane qui se fait naturellement sur les exploitations.
Avec les bovins.
Puisque
hein.
c'est un des premiers gaz à effet de serre, donc problématique pour notre environnement. Donc nous, on a fait le choix, et pour contribuer à favoriser et améliorer un peu notre destin, si je peux dire, c'est que ce CH4, on le capte, et aujourd'hui on s'en sert comme carburant pour faire marcher un moteur et une génératrice et la production d'électricité.
Voilà, donc il y a du biogaz d'un côté, et puis ensuite, ce que vous appelez le digesta, hein, pour fertiliser les terres agricoles.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, en tout cas Ludovic, on en sait un peu plus sur la méthanisation, grâce à vous. Et puis, ben, vous saluez tous les membres de l'association Méthanobra, qui se trouve donc, je le rappelle, à Sainte-Geneviève-sur-Argence, en Aveyron. Merci beaucoup d'être passé. Bonne journée à vous. Si vous également, vous avez un projet dont vous souhaitez nous parler, eh bien, passez par la Terre au Carré. On attend toutes vos suggestions sur franceinter.fr. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Après La Rochelle, changement de décor aujourd'hui, vous nous emmenez dans le centre de la Bretagne, à Plessala. C'est une commune rurale du Méné, dans les Côtes d'Armor. Et c'est le premier territoire à énergie positive en France. Vous avez rencontré là-bas justement des agriculteurs qui réduisent au maximum aussi leurs émissions carbone.
Oui, dans ce pays du Méné, un peu éloigné, à 40 km au sud de Saint-Brieuc, la transition énergétique est une préoccupation de tous les instants pour certaines familles et certains élus. Depuis plus de 10 ans, sur les collines, le vent fait tourner les éoliennes. Il y a aussi des panneaux solaires sur les toits, des écoles en particulier, des chaudières à bois dans les villages. Et pour l'agriculture, certains ont osé une petite révolution par rapport à l'élevage intensif de cochons, notamment à Plessala. Ronan Rocabois et Dimitri Guérin ont tous les deux repris la ferme du Bignat, une ferme bio, et ils ont deux obsessions, la qualité de leurs produits et la chasse au carbone.
On commence par l'huilerie.
Qu'est-ce qu'on voit en face alors là ?
Du chanvre. Du chanvre, donc, qui était utilisé historiquement en Bretagne pour faire du textile, enfin pour faire de l'isolation, etc. Nous, on le récolte, on le sèche, on le presse. On a une petite huilerie à la ferme. On extrait l'huile qu'on vend à des particuliers ou à des professionnels en cosmétique ou en huile alimentaire. Puis bah, le tourteau, le résidu solide, on l'utilise nous pour rajouter un apport protéique à l'alimentation de nos animaux.
Vous êtes autonome pour l'alimentation des animaux, hein, c'est ouais. Ça le principe.
C'est ça. On cultive toutes nos céréales et on les redistribue à nos animaux.
Et là, on vient dans l'atelier de pressage. Donc là, l'idée, c'est une presse à vis.
Et ça vous permet de ne pas importer de céréales pour l'alimentation des animaux. C'est aussi ça l'intérêt, finalement, pour réduire les dépenses de la ferme.
Ouais, c'est ça. C'est complémentaire des céréales. Et oui, l'idée, nous, c'est vraiment d'être autonome sur la ferme, où on vend des animaux, de la viande en vente directe. On est sûr de ce qu'on donne dans l'alimentation. Quand on vend du porc ou du poulet, on sait qu'on a semé, qu'on a récolté tel champ. Enfin, voilà, on a toutes les étapes en main, quoi. Ici, c'est un atelier, le démarrage de l'atelier volaille. Et donc, dès qu'ils ont une première plume de fête, ils passent sur les bâtiments mobiles en extérieur.
Quelle était votre idée de départ, en fait, quand vous avez repris cette ferme ?
Je pense qu'on aime bien manger. La ligne directrice, ça a été la qualité. Et en fait, si on regarde de la biodiversité, comment est-ce qu'elle s'inscrit là-dedans, les auxiliaires de culture, la vie du sol. Et plus on creuse, plus on a envie d'atteindre la qualité par différents moyens.
Et cette qualité est compatible avec une réduction des dépenses énergétiques ou de réduction d'empreintes carbone ?
Oui, moi je suis convaincu. Ouais.
Si nous, notre vision de la qualité, c'est justement une réduction de l'empreinte carbone, forcément c'est qualitatif. Quoi.
Et cette réduction de l'empreinte carbone, elle passe par quoi, par exemple ?
Donc déjà, il y a l'aspect là qu'on vient d'évoquer là sur les céréales. On utilise beaucoup d'engrais verts, donc des couverts végétaux très denses, très variés, très diversifiés. On a les haies bocagères, on a l'agroforesterie en intraparcellaire. Et on paille nos animaux avec les branches d'arbres, des haies, et puis demain, des arbres qu'on vient de planter. Quoi.
Donc vous n'importez pas ou vous n'achetez pas de paille ?
On n'achète pas de paille, on n'en vend pas non plus. Quoi. On a du photovoltaïque sur la ferme, de la production pour la revente. Il y a une chaudière bois énergie qui chauffe 7 logements sur le village. Et il y a les plaquettes de bois qui servent pour le paillage des animaux. Donc là, on a un petit atelier de lombricompostage. Donc à partir du lombricompost, on a les vers qui travaillent. Et du coup, on vient recréer de la biodiversité aussi dans le sol.
Et économiquement, c'est rentable ?
Nous, ça nous semble cohérent dans le schéma qu'on utilise. Étant donné qu'on fait de la vente directe, on fait du bio, du plein air. On s'y retrouve, sinon on ne le ferait pas. Et donc ici, comme tu peux voir, il y a les cochons. Donc là, qui sont certains en train de manger, d'autres à l'abri dans la petite cabane. Et donc, on a réimplanté au niveau des parcs à cochons, des bosquets. ça leur apporte de l'ombrage, parce qu'un cochon c'est comme un être humain, sauf qu'il peut pas mettre de la crème solaire, donc quand il fait cagna, et ben voilà, ça brûle. Et puis que ça leur apporte aussi de l'aliment en direct, qu'ils puissent aller fouiner et puissent nourrir en même temps. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet de stocker le carbone aussi.
Les arbres, on sait que c'est une source de captation de carbone, donc plus il y a d'arbres entretenus, plus ils en captent. On doit modifier nos pratiques si on veut en capter davantage et avoir un minimum d'impact sur l'environnement ou d'impact négatif sur l'environnement, quoi. Et le substrat de la culture, c'est la terre, quoi. Et si tout se barre, on n'a plus d'outils ou de bases concrètes pour pouvoir produire, quoi. C'est demain, quoi.
Là, vous sauvez un peu votre outil de travail aussi.
Totalement.
Voilà, le réchauffement climatique, il est là. Je me dis, ce que je fais là, même ça me paraît logique et cohérent. J'espère que voilà, ça aura un impact, pas forcément pour moi, mais pour mes enfants par exemple. Et que j'aurais pas à regretter de leur dire, bah ouais, j'ai regardé, j'ai rien foutu, quoi.
Voilà, Plaisalat dans les Côtes d'Armor, Célia, et c'est un réel engagement de la part de ces agriculteurs. Ça peut être un modèle, on rappelle, premier territoire à énergie positive en France, hein, cette commune.
Oui, premier territoire à énergie positive. Alors, ces deux jeunes sont plutôt modestes, ils ne veulent surtout pas se fâcher avec leurs voisins qui continuent d'avoir d'autres méthodes plus intensives. On est en Bretagne, eux sont en bio, en vente directe, c'est assez particulier, ce n'est pas duplicable à l'infini, mais pour eux, l'important, c'est surtout d'avoir des recettes pour réduire au maximum les dépenses. Ils mutualisent leurs tracteurs, n'importe rien, et ils participent globalement à ce territoire à énergie positive. Leurs déchets de bois servent par exemple à chauffer tout le hameau et ils ont investi eux aussi dans les éoliennes de la commune. Pour eux, les agriculteurs ne doivent surtout pas être isolés. En vase clos, c'est un engagement collectif.
Alors demain, dernier reportage.
Eh bien demain, justement, on sera au pied des éoliennes de ce pays du Menet. Pour ces Bretons, il n'est pas question de laisser des entreprises privées profiter de leur vent. Elles sont donc participatives.
Voilà, le vent breton. Donc ce sera demain avec vous, Célia Quiret. Reportage à réécouter bien sûr sur France Inter. Merci beaucoup, à demain. Dans un instant, l'invité découverte nous emmène sur la mer morte. Ce sera juste après Joy Crooks. Hurts. Thunder clouds when you walked in, but I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling. How I like my eggs in the morning. Taking comfort in my shadow, but you seem to stay afloat 'cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow, 'cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up then skirt, you just pull up when it hurts. Why oh why oh why? I just pull up then skirt, you just pull up when it hurts. Why oh why?
Spaceship calling out your rain, 'cause it's no one's time to soak it. You left me hopeless, swimming in your ocean. Got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, oh why? Why, oh why? I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, oh why? Pull up, then
France Inter, la Terre au carré.
Le recul de la mer morte, il a commencé dans les années 60. Résultat, le fleuve Jourdain, qui en 1960 déversait 1300 millions de mètres cubes d'eau dans la mer morte, n'en déversait plus en l'an 2000 que 290 millions. Et c'est sans compter l'industrie minière qui, selon certaines ONG, pomperait jusqu'à 300 millions de mètres cubes de saumure dans la mer morte.
Voilà, la voix de Jamie dans
C'est
pas sorcier,
bien sûr, c'est
même
Jamie.
Pas besoin de le présenter. Julie Trottier, vous êtes directrice de recherche CNRS, spécialiste de l'eau en Israël et en Palestine. Et vous êtes en ligne avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée découverte à l'occasion de la parution d'un reportage photo dans la revue 6 mois sur les mers et les eaux du Proche-Orient qui s'évaporent mais sur lesquelles on continue à construire entre autres des barrages et des lacs artificiels. Et on s'intéresse avec vous en particulier au cas de la mer morte. Alors il faut d'abord préciser que la mer morte c'est en réalité un lac d'eau salée, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. La mer morte c'est un terminus pour tout un bassin versant.
Quelle est la particularité alors on va dire quand même de cette mer morte hein, qui est à cheval sur Israël, la Cisjordanie en territoire palestinien et la Jordanie.
Bien, c'était un lac d'eau salée, comme vous le dites, donc une mer enclavée qui avait atteint un équilibre où elle perdait chaque année à peu près autant d'eau qui lui parvenait au travers du fleuve Jourdain. Mmh. Or, dans les années 60, on va voir Israël qui va construire sa voie d'eau nationale, qui va puiser son eau dans le lac de Tibériade et l'acheminer à l'intérieur d'Israël jusque dans le Negev. Et d'autre part, on va voir la Jordanie construire le canal du roi Abdallah, qui va puiser son eau dans le fleuve Yarmouk, qui lui alimentait le fleuve Jourdain inférieur. Autrement dit, on va priver la mer morte de ses affluents. Et donc, elle va continuer à perdre son eau par évaporation, mais cette perte n'est plus remplacée.
Donc, ça a été un déséquilibre à partir de ces travaux là dans les années 60. À partir de quand les premiers effets se sont fait sentir, d'ailleurs, sur la mer morte ?
Mais dès la première année, dès 1964, quand on n'a plus permis au Jourdain de poursuivre sa route jusqu'à la mer morte, on a commencé à voir la dégradation de tout l'écosystème le long du fleuve Jourdain. Mmh. Et le niveau de la mer a commencé à baisser inexorablement. Donc on a vu la rive reculer chaque année. Ça se voit particulièrement du côté israélien parce que là, l'inclinaison du fond de la mer est beaucoup plus faible que du côté jordanien où on a des falaises.
À l'époque, les États savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient au courant, en toute connaissance de cause, des menaces que ces infrastructures représentaient pour la mer morte.
Parfaitement. On savait parfaitement ce qu'on était en train de faire. Simplement, la mer morte n'était pas perçue comme quelque chose de précieux. C'était perçu comme un gaspillage d'eau, parce que c'est de l'eau douce qui alimentait la mer morte. Or, on ne pouvait rien faire de façon mercantile avec l'eau de la mer morte. Donc, on savait qu'on condamnait la mer morte à terme, mais c'était considéré comme acceptable dans les années 60.
Julie Trottier, la mer morte, elle est connue pour sa salinité. Vous pouvez nous rappeler déjà le pourcentage de sel dans la mer morte par rapport à une mer classique, entre guillemets?
Oh là là, c'est à peu près un peu plus que 20%.
D'accord.
C'est plusieurs fois, 5 à 8 fois, je crois, celui de la Méditerranée, par exemple.
Et ça, c'est unique au monde? On trouve ça nulle part ailleurs?
Des mers enclavées, vous allez en trouver ailleurs, comme la mer d'Aral, par exemple, qui a commencé à disparaître pour la même raison.
Mais avec une telle salinité. Ouais, mais on trouve vraiment
À ma connaissance, c'est la plus salée. Maintenant, je ne suis pas spécialiste de toutes les eaux salées du monde.
Alors, moi, je vous parlais du sel parce que Israël, à l'ouest, et la Jordanie, qui est à l'est, exploitent les sels aussi de la mer morte, c'est bien ça?
Parfaitement. Vous avez deux compagnies, Dead Sea Salt à l'ouest, côté israélien, et le Jordan Potash Company à l'est, côté jordanien, qui pompent l'eau dans ce qui reste de la mer morte, ce qui est au nord. Ils le pompent au travers d'un canal, ils l'acheminent dans des bassins d'évaporation, Et donc, ils accélèrent cette disparition de la mer morte. Et la raison pour laquelle ils veulent la faire évaporer, c'est pour récolter les sels, le chlore, le brome, la potasse qu'ils commercialisent. Mmh. Ils traitent la mer morte comme une mine.
Oui. Alors, la baisse du niveau, elle est à peu près d'un mètre vingt, je crois, en moyenne par an. Est-ce que le phénomène tend à s'accélérer? Parce que c'est quand même beaucoup. On voit des photos, d'ailleurs, hein, dans six mois, qui sont extrêmement impressionnantes. On voit des passerelles qui, à l'époque, permettaient d'accéder à l'eau directement. Aujourd'hui, l'eau est vraiment très, très loin et très en bas, puisque c'est le point d'abord le plus bas sur Terre, mais là, accentué évidemment par la sécheresse. Ce phénomène s'accélère ou pas?
C'est l'inclinaison. Le niveau, la quantité d'eau qui s'évapore chaque année est globalement la même. Mmh. Simplement, si le fond de la mer est plus plat ou plus escarpé, vous allez voir la rive s'éloigner plus ou moins en fonction de la même perte d'eau par évaporation. Mmh. Donc ça dépend de la topographie sous la mer.
Il y a des zones touristiques aujourd'hui, c'est très touristique, la mer morte. Il y a des zones touristiques qui ont disparu à cause de cette évaporation.
Oui, c'est assez particulier, c'est-à-dire que au nord, ce qui était la rive de la vraie mer morte, on a des villages touristiques qui se sont retrouvés loin de la rive, parce que la rive s'est éloignée. Mmh. Et comme la nappe disparaissait sous terre, ça a laissé un sol extrêmement friable, salé, et qui s'effondre de manière inopinée, sans qu'on puisse crier gare. Et donc, vous avez littéralement des villages de vacances qui se sont retrouvés engloutis par la terre.
Oui.
Par contre, au sud, à côté des bassins d'évaporation, là, vous avez des complexes hôteliers qui, eux, peuvent vous garantir que vous allez pouvoir flotter dans l'eau de la mer morte puisque vous allez flotter dans les bassins d'évaporation d'une compagnie.
Oui.
Et mais alors, vous ne flottez pas dans la mer morte, vous flottez dans un bassin d'évaporation.
C'est ça, ouais. Alors donc Julie Trottier, on a vraiment, et on le voit aussi là dans le reportage photo de 6 mois, de véritables villages fantômes, avec un des symptômes que vous avez un petit peu décrit là justement sur ce phénomène de sécheresse, ce sont les dolines, c'est ça? C'est lorsque précisément la mer se retire en laissant ce sol extrêmement friable avec des cratères qui sont même dangereux d'ailleurs, hein.
Oui, c'est dangereux parce que la route sur laquelle vous roulez est susceptible de s'effondrer à tout moment. La maison dans laquelle vous habitez est susceptible d'être engloutie par le sol. Mmh. Les plantations de palmiers dattiers, les arbres, parfois, tout à coup, pouf, tombent dans la terre.
Oui. Le tourisme de masse, évidemment, ne se rend compte absolument de rien. On fait tout, d'ailleurs, pour lui cacher la situation réelle aujourd'hui de la mer morte.
À ceux qui, les touristes qui vont au complexe hôtelier au sud, généralement ne savent pas qu'ils ne sont pas en train de se baigner dans la mer morte. Ils croient qu'ils sont en train de se baigner dans la mer morte.
Ouais.
Ils sont dans des bassins d'évaporation, comme vous le disiez. Ça peut être dangereux pour la santé, vous le savez ça?
Non, normalement, l'eau de la mer morte est considérée comme ayant des vertus curatives, particulièrement pour le psoriasis ou pour l'arthrite. Hein. Mmh. Évidemment, vous avez aussi toutes les pollutions agricoles qui ont rejoint les eaux de la mer morte ces dernières années. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler de gros risques sanitaires.
Ouais. Julie Trottier, ce serait quoi le plan de sauvetage idéal aujourd'hui pour la mer morte? Il y a ce projet de canal absolument hallucinant entre la mer Rouge et la mer morte. C'est plus de 180 kilomètres, ça coûte quasiment 10 milliards à réaliser. Pour l'instant, l'argent n'est pas réuni. C'est le seul projet, en tout cas, fiable aujourd'hui?
Non. Non. Un autre projet a été mis en avant par l'ONG Ecopeace, qui est une ONG environnementale israélienne, palestinienne et jordanienne, qui consiste simplement à permettre au Jourdain de couler à nouveau.
Ouais.
Vous pourriez permettre au barrage qui est au sud du lac de Tibériade de relâcher au moins un peu d'eau, de manière à restaurer l'écosystème quelque peu le long du fleuve Jourdain et à réalimenter la mer, ce qui pourrait arrêter sa disparition inexorable.
Merci beaucoup Julie Trottier. On peut donc découvrir ce reportage donc de photos avec votre interview dans la revue 6 mois. Ça s'appelle Au secours, les mers et les fleuves du Proche-Orient qui s'évaporent. Et puis un petit conseil, c'est d'arrêter d'acheter des produits cosmétiques de la mer morte, par exemple. Ça peut être une très bonne idée. Merci beaucoup en tout cas à vous Julie Trottier d'être passée aujourd'hui dans la Terre au Carré. À bientôt.